à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Chers auditeurs, bonjour. La chaleur ne vous a pas empêché de prier pour recevoir la fraîcheur de cœur et d'esprit du Seigneur. Comme on est heureux lorsque l'on prie avec Jésus et la Vierge Marie, notre petite maman bénie. Il y a quelques jours, des jeunes musulmans m'ont demandé pourquoi les chrétiens ne respectent pas leur pape et leur prêtre suite à la critique qu'ils ont lue dans l'Orient le Jour sur Benoît XVI et ses chaussures rouges. Je leur ai dit « Pourquoi, à votre avis ?» Ils m'ont répondu directement « Peut-être n'ont-ils pas la foi, ne prient-ils pas, ils n'ont plus de respect ni de confiance, mais c'est dangereux à long terme. Nous, en islam, on défend notre chair. » Même s'il fait des erreurs, car c'est un homme. Mais attention, c'est un homme qui nous conduit à Dieu. Donc on le respecte parce qu'il est consacré à Dieu et on ne dira jamais d'insultes sur lui ou de critiques publiques. Cela m'a fait réfléchir. Si chaque croyant ne cherche qu'à aimer plus et mieux, donc à ressembler au Christ, Jésus lui-même le conduira dans la chambre des noces afin de lui révéler la splendeur de l'Église, sa maison et son sens profond. Il verra ce que ses yeux de chair ne peuvent pas voir. Il comprendra que le salut, c'est l'amour. Qu'est-ce que les péchés, les apparences, sinon une poignée de sable dans la mer, en comparaison avec la miséricorde de Dieu ? En définitive, le seul péché n'est-il pas de ne pas se faire attentif à la puissance de résurrection? La charité d'un chrétien qui vit le Christ devient cosmique. Son espérance est sans limite. Il prie même pour les serpents et les démons. Il perçoit la flamme des choses. Il est pacifié. Il aime et l'amour aime et c'est tout. Il respire la vie et l'autre tel qu'il se livre dans sa vérité à lui. La critique est aisée, mais l'art est difficile. L'amour est difficile, répétons-le. Mais en tant que chrétiens catholiques de surcroît, nous pouvons chaque jour recevoir du Père en Jésus-Christ cette puissance réelle de transfiguration. Alors, notre regard sur les êtres est transformé. C'est Jésus qui regarde en nous et nous sortons de la critique ignorante ou jalouse, fruit d'un durcissement du cœur, de l'insensibilité spirituelle, d'une crispation sur son avidité ou son orgueil. Je vous le répète encore, Jésus est venu et vient à chaque Eucharistie nous libérer de nous, pour nous permettre de retrouver l'enfant vulnérable, étonné et émerveillé en nous. Ceci dit, il y a bien sûr une juste critique qui nous aide à progresser, mais discrète et respectueuse. Notre Saint-Père Benoît XVI est le vicaire du Christ. Sa présence sur la terre et en tant que catholique, nous adhérons en plénitude à tout ce qu'il est. C'est là notre foi. Il est le pauvre de lui-même, revêtu du Christ. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pourquoi voulons-nous souvent que les religieux soient moches, pauvres matériellement et un peu idiots? La pauvreté évangélique est la mise en commun des biens d'une famille et d'une communauté. Par exemple, la richesse du Vatican est à chaque chrétien, à vous comme à moi. C'est notre patrimoine, notre mémoire. Avoir n'est pas gênant, mais comment a-t-on ? Là est la question. Également,
devenir pauvre, oui, mais de soi-même, de ses préjugés, de ses idées toutes faites, de ses critiques inutiles, etc., pour donner la vie à l'autre et lui permettre d'être ce qu'il est dans sa liberté. C'est la pauvreté du moine, de la religieuse et des consacrés, du chrétien. C'est dans cette prière de Jésus qui génère le sacrifice de soi, l'offrande sainte, que l'on peut découvrir en l'autre la gloire de Dieu cachée dans l'être. Une spiritualité de l'être, c'est notre foi chrétienne. Jésus est. Dieu se nomme « Je suis ». Il s'agit d'être. Je cite Isaac le Syrien. La foi est la porte des mystères. Ce que les yeux du corps sont pour les choses sensibles, la foi l'est pour les yeux cachés de l'âme. De même que nous avons deux yeux corporels, nous avons deux yeux spirituels, et chacun a sa propre vision. Par l'un, nous voyons les secrets de la gloire de Dieu cachés dans les êtres. Par l'autre, nous contemplons la gloire de la sainte nature de Dieu lorsqu'il veut bien nous faire entrer dans les mystères. Ainsi, le chrétien qui prie, l'homme ou la femme qui identifie la connaissance à la vie et la vie à l'éternité, devient capable de tout sentir en Dieu, de sentir sur toute chose la bénédiction de Dieu et donc, par exemple, de faire jaillir des chaussures rouges du pape Benoît XVI, le miracle illuminé de la Jérusalem nouvelle de tous les chrétiens martyrs, témoins du Christ ici et au-delà jusqu'à leur sang livré si nécessaire. Je cite encore Isaac le Syrien. Qu'est-ce que la connaissance? Le sens de la vie immortelle. Et qu'est-ce que la vie immortelle? Tout sentir en Dieu. Car l'amour vient de la rencontre. La connaissance unie à Dieu accomplit tout désir. Et pour le cœur qui la reçoit, elle est tout entière douceur débordant sur la terre. Car il n'est rien de semblable à la douceur de la connaissance de Dieu. Il appartient aux chrétiens, en premier, de montrer aux hommes que la croix, toutes les croix de l'histoire, nous appellent à passer de la possession au partage et à l'offrande, à découvrir le donateur à travers le don. Le mystère du Christ et le témoignage des siens interviennent pour transformer des situations de mort en situations de vie, pour éviter le suicide d'une humanité désorientée et la destruction de la nature trahie. N'oublions pas que nos convictions ont un lien direct ou indirect avec le problème de la violence. Réconciliation, amour, pardon, justice et paix, jour après jour, année après année, ces belles pensées sont annoncées, célébrées, enseignées et sans doute vécues même de manière imparfaite. Alors, n'y a-t-il pas ici un trésor enfoui, insuffisamment exploité? De nos convictions naît notre éthique. Et pour enseigner et vivre cette éthique, nos églises ont un rôle éminent. Les chrétiens nous répètent toujours « Ya, ma sœur, nos prêtres, nous les aimons, nous les respectons, mais nous attendons d'eux qu'ils guident mieux notre jeunesse, par exemple en ce qui est des tenues de plage à l'église. Il faut apprendre le respect du sacrifice du Christ et le respect de soi et de l'autre, aider notre jeunesse à discerner les situations où ils peuvent s'habiller comme ci ou comme ça. » Oui, c'est vrai, vous avez raison. Chers amis libanais, nous consacrés, nous avons le devoir d'éveiller les consciences, avec audace et avec courage. Ce que je propose ici, à la portée de toute paroisse ou de toute communauté, quelle qu'elle soit, et de tout chrétien, aussi mondain ou simple qu'il soit. L'évangile de Jésus-Christ nous exhorte à l'amour de l'ennemi, problématique clé dans toute analyse de la violence, dans tout effort de la surmonter et de la dépasser. Une conviction centrale de notre foi de chrétien, c'est la théologie de la croix. Prions. La croix du Christ est source de pardon et de justification gratuit. C'est le lieu de la manifestation suprême de la grâce et de l'amour pour nous. Le Nouveau Testament crée un lien entre cette grâce de Dieu pour nous et l'amour de l'ennemi. Romains 5, 10, je cite. Si, en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Autrement dit, la grâce de Dieu est une forme de l'amour de l'ennemi. Dieu aime ceux qui ne méritent pas d'être aimés. En même temps, la croix du Christ est aussi un modèle, un style de vie. Je cite Marc 8, 34. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. À ce style de vie sont liés des comportements ayant des liens directs avec la question de la violence. Je cite Jésus. Quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un gifle sur la joue droite, tends-lui donc aussi l'autre. Ou encore, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Un lien existe donc entre la croix comme éthique et l'amour de l'ennemi. Cette grâce de Dieu qui exige un style de vie approprié a aussi des implications sociales. Je cite Éphésiens 2, 14 et 50. C'est lui qui en effet est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Il a voulu aussi créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Les Épîtres nous présentent la croix comme source de paix entre les peuples. Cette remise ensemble des peuples ennemis fait partie intégrante de la justification par la foi. En Christ, ceux qui ne pouvaient pas se mettre autour d'une même table peuvent désormais manger ensemble. Il existe donc un lien entre justification par la foi, vie communautaire et l'amour de l'ennemi. Dans les Épîtres du Nouveau Testament, le « ni juif, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme » est constitutif de l'Église. Nous avons l'habitude de parler de l'amour de Dieu, de soi, du frère, de la sœur, du prochain. Cependant, l'amour du Christ, la croix du Christ, est aussi intimement liée à l'amour de l'ennemi. Dieu aime ses ennemis en venant parmi nous. Prendre sa croix au nom de Jésus implique l'amour de l'ennemi. La croix a tué le mur de la haine entre les peuples, permettant la naissance d'une réalité sociale nouvelle formée de personnes qui auparavant étaient ennemies les unes des autres. La théologie de la croix nous amène donc à l'amour de l'ennemi, ce qui n'est pas sans lien avec la question de la violence. Disons en premier que l'éthique n'est pas une affaire individuelle. Il n'y a pas d'éthique sans tradition ni communauté. Exemple, le type modèle moderne de l'individu libre et autonome est en fait le fruit d'une tradition, celle des Lumières et de la triste Révolution française. Et il ne peut pas fonctionner sans des structures sociales pour le soutenir et le promulguer. Pour que cet individu autonome existe, il faut une tradition, une histoire qui est enseignée et des structures sociales qui débouchent sur une vie partagée et commune. En fait, toute tradition comporte une éthique et vise la mise en place d'un certain type d'individu et de vie sociale. Pour simplifier, nous pouvons constater que le but de la tradition moderne, c'est créer, former, fabriquer des individus libres et autonomes. Mais pour cela, il faut plus que des individus. La société met en place des institutions pour atteindre ces buts. L'école en est un bon exemple. C'est à l'école que sont enseignés un langage, une tradition, une histoire et des valeurs nationales. La nation française, par exemple, veut produire de bons Français, libres, autonomes, pétris d'égalité, de fraternité. Elle se donne ainsi les structures nécessaires pour produire de tels individus qui vont vivre ensemble, partageant des valeurs, une langue et une culture commune. Ce modèle français est censé avoir une portée universelle et est souvent pris comme modèle. Il en est de même dans le domaine de l'économie libérale. Son but est de produire des consommateurs. L'économie se donne les moyens idéologiques et institutionnels pour fabriquer de bons consommateurs. Son catéchisme est la publicité. Les exemples sont innombrables. Les USA, les Américains cherchent à créer de bons Américains. De même, le marxisme ou l'islam fondamentaliste voudraient créer un certain type d'homme et une réalité sociopolitique correspondante. Toutes les convictions s'accompagnent de traditions et d'institutions dont le but est de former des personnes pour vivre en collectivité. S'il y a donc une éthique chrétienne, elle ne peut pas fonctionner autrement. Sa particularité se trouve ailleurs, dans ses convictions, sa tradition et sa vision de la vie sociale. Le but de l'éthique chrétienne serait donc de former des personnes et des réalités communautaires à partir des valeurs chrétiennes, des personnes qui visent une pratique juste, qui cherchent à vivre la vérité en vérité et en acte, qui apprennent à aimer Dieu, le prochain, le frère, jusqu'à l'ennemi. Et puisqu'il est difficile de vivre cette perfection, l'Église doit surtout former des personnes qui savent reconnaître leurs limites et leurs faiblesses, et qui savent pardonner à l'autre ses mêmes faiblesses ou manquements. Il nous faut des lieux capables de former des personnes humaines et de cultiver des valeurs à long terme. Dans le cas des chrétiens, l'Église peut et doit jouer ce rôle. Où apprendrons-nous à résoudre les conflits autrement que par la violence? Par exemple, au Liban, comme ailleurs, les chrétiens doivent assumer leur passé et reconnaître les contradictions de leur histoire. Le repentir et la demande de pardon, c'est l'Évangile vécu. Mais il faut encore aller plus loin. L'Évangile implique une ontologie de la paix dans l'amour de l'ennemi incarné par nos actes. C'est la plus haute stratégie non violente. Si nous, chrétiens, croyons à la paix et si nous la désirons, il faut traduire cette conviction dans la réalité de notre vie familiale, sociale ou politique. Chaque dimanche, on se réunit dans nos églises pour célébrer le règne de Dieu et sa paix, l'annonce du pardon. Ces messes, ce message, doivent transformer nos vies personnelles et collectives et nous appeler tous à changer nos vies. Un réseau de paix mondiale contre toute violence existe. Il se nomme Ecclesia Mater. C'est notre Église. Lieu pour renaître. Il se fonde sur un révolutionnaire de l'amour, Jésus, le Christ, qui a aimé ses ennemis, sur la paix d'un Messie qui a livré sa vie pour nous tous, pour tous les hommes. Ce réseau mondial proclame qu'il n'y a pas de juifs, de grecs, d'esclaves, d'hommes libres, ni hommes, ni femmes. Les partisans, hommes de toute race, nation, condition sociale, les partisans de ce réseau aiment Dieu, le prochain et leurs ennemis. Je vous invite donc à rejoindre notre réseau mondial, l'Église. Alors vous serez chacun un ouvrier de cette paix mondiale, au Liban ou ailleurs. Ce réseau, c'est bien notre Église catholique. Vive Dieu, vive l'Église.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.